Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioVallée.
Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Merci également d'écouter Radio Saint-Ferréol 94.2. Nouvel épisode de Biotope en compagnie de Jean-Marie Verdet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agriculteur en agriculture biologique à Saint-Romand.
Je me suis installé dans les années 90, à un moment où l'agriculture bio n'était pas vraiment à la mode. C'était un peu dur de faire son trou, mais bon voilà, je suis toujours là et ça se passe plutôt bien.
Vous faites partie de ces pionniers de l'agriculture bio quand même dans le Diwa, de ceux qui ont fait que cette vallée est bio maintenant.
Alors pionniers quand même, il y en a eu avant moi,
voilà. 70 quoi.
Je pense que certains comme Michel Roux, qui était vraiment quelqu'un de mordu, mais bien avant, qui m'ont donné confiance et qui m'ont bien engagé à partir dans cette voie. Mais c'est vrai que... dès que je me suis installé, le côté humus, le côté gestion de la matière organique, je trouvais ça hyper important, hyper intéressant. Il s'est trouvé qu'on était plusieurs agriculteurs à ce moment-là dans le Diwa. On s'est trouvé 3 ou 4 à faire son compost chacun dans son coin, à galérer comme ce n'était pas permis, parce qu'on n'avait pas de matériel, parce que la technique n'était pas vraiment au point. Et c'est quand même, on peut dire, grâce à la communauté de communes qui se crée à ce moment-là, qu'ils ont engagé une technicienne pour réfléchir sur ce dossier. Et que du coup, ça a été le début de la cuma de compostage, ça a été le début du gros matériel, l'arrivée de gros épandeurs à compost, l'arrivée de retourneurs d'Andins, il y a eu des démonstrations de matériel, les agriculteurs ils aiment ça, le gros matériel tout de suite ça percute. Et ça a été une très très bonne expérience parce que les agriculteurs se sont motivés là-dessus. Ok, on a envie de soigner nos sols, on sait qu'on peut les abîmer, mais on sait qu'on peut les soigner. Et le compost était une bonne façon d'apporter un soin à son sol.
Et puis cette technologie, cette technique mécanique qui arrive pour remplacer peut-être un peu tous ces produits phytosanitaires, quoi.
Alors voilà.
Parce que qu'on oppose souvent à l'agriculture biologique.
Bah en fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'un sol est vivant, mais il ne faut pas le tuer. Si on commence à s'intéresser à son sol et qu'on commence à se dire, on va essayer de le soigner, on va apporter ce qu'il faut pour qu'il soit vivant, on ne peut plus d'un autre côté balancer des produits qui tuent, quoi. Donc c'est là qu'il faut avoir une certaine cohérence. Il faut d'abord commencer par arrêter d'apporter ce qui tue, arrêter les cides. Moi, j'aime bien parler des cides, herbicides, fongicides, insecticides, tous les cides.
C'est maladie, quoi.
Voilà, infanticides, ouais.
C'est pas terrible.
Voilà, tous ces cides, c'est des produits de mort, en fait.
Oui.
Voilà, ces produits de mort. Il faut d'abord commencer par avoir...
Mais c'est vrai, ça, un homicide et un fongicide.
Le suffixe cide, c'est la mort. Voilà.
Donc, très bien. Alors ça,
c'est parlant, ça. C'est parlant. Ouais, fongicide, insecticide, herbicide, c'est la mort. C'est de la mort qu'on répand. Donc d'abord, on commence par arrêter ça. Si on veut que le sol vive, faut arrêter de lui apporter des choses qui le tuent. Donc on commence d'abord par ça, on passe en bio, mais il manque encore une dimension. Bon, je suis passé en bio, mais mon sol, il est important. Qu'est-ce que je fais pour s'occuper de mon sol? Et c'est là que tout de suite, on voit apparaître la gestion de la matière organique. Qu'est-ce que j'exporte? Qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je fais revenir dans mon sol? C'est bien de vendre du blé, mais quand on vend du blé, il y a le déchet, c'est la paille. Qu'est-ce que je fais de la paille? Je la vends pour gagner 4 sous ou je la transforme pour dire merci à mon sol, pour que ça retourne au sol, pour que du coup, il continue à vivre et me faire du blé correctement.
Alors pour terminer la présentation, puisqu'on vient de parler un petit peu de culture, vous cultivez quoi?
Ce qui m'a permis de démarrer, ça a été les pommes. Voilà. Hein, j'ai fait des pommes
Célèbre jus de fruits.
Il paraît qu'il est bon. Pendant 10 ans, j'ai vendu pas mal de pommes en bio et je les ai bien vendues parce que à ce moment-là, la pomme bio en française, c'était rare.
Dans le Diwa encore plus.
Dans le Diwa, oui, je suis le seul. Et puis, j'en ai vendu sur Grenoble beaucoup parce qu'il y avait une grosse demande. Et puis que moi, je suis grenoblois et que je connaissais les débouchés sur Grenoble. Et il y a eu un moment où la pomme, parce que j'étais en bio, parce que j'utilisais beaucoup de cides bio, parce que ça existe aussi, les fongicides bio, les herbicides bio, la roténone. J'utilisais beaucoup de roténone. Et je pense que même moi-même, j'en ai souffert au niveau physique. Hein, c'est pas anodin d'utiliser la roténone quand on est agriculteur. D'ailleurs, maintenant, elle s'est réglementée. Mais bon, il y a eu un moment où je me suis dit, mince, tous ces cides bio que j'utilise, ça va pas. Il y avait un problème. Et donc, ça a été un peu aussi en même temps où j'ai commencé à développer le côté farine. Et maintenant, c'est surtout la vente de farine alimentaire pour humaine qui me permet de vivre, qui fait tourner la ferme.
Donc du blé.
Du blé transformé, vendu en farine.
Et vous avez été cité dans cette même émission Biotope une fois où nous recevions Guillaume Etienne. Un mot sur le partage des terres et permettre comme ça à des jeunes de s'installer en maraîchage.
Alors c'est pas vraiment moi le partage des terres, c'est pas un terme, je sais pas s'il faut utiliser ce terme. Moi ce que je pense plutôt, c'est que quand on en a assez pour vivre, pourquoi en avoir plus ? Voilà. Et moi, je me suis rendu compte que cette ferme, elle nous faisait vivre correctement. Même un jour avec ma femme, on s'est dit, cette ferme, elle peut faire vivre plus qu'une famille.
Et c'est une grosse famille, hein, déjà, les vermes.
Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Elle est capable, elle a le potentiel de faire vivre plus d'une famille, mais j'ai pas envie de travailler plus. Et c'est là que est arrivé Guillaume Etienne, qui avait un projet maraîchage. Je lui ai dit, écoute, voilà, toi, si tu veux, je te prête pour une certaine durée, la durée que tu estimes. Mais c'est un prêt que je lui ai fait. Je lui ai dit, quelle surface tu as besoin ? Voilà, 1,5 hectare. Pour faire du maraîchage, il me faut plutôt les bonnes terres. Donc vas-y, choisis la parcelle qui te convient. Moi, je serai OK. Mais par contre, je ne veux pas vendre. Je ne veux pas vendre parce que je ne sais pas ce que vont faire mes enfants. Je ne sais pas ce que va devenir cette ferme après. Tu me dis que tu as besoin de 5 ans pour faire le tour de l'expérience. Bah, OK, je la prête, je m'engage sur 5 ans. Et puis au bout de 5 ans, on voit, est-ce qu'on repart pour une nouvelle période de 5 ans ou est-ce qu'on arrête ? Voilà, donc c'est parti comme ça. Je ne sais pas si c'est très légal. Je ne sais pas si on a le droit de faire comme ça. Je l'ai fait. C'est parti d'un accord mutuel, hein, une espèce de... On s'est fait confiance mutuellement et l'expérience, pour l'instant, est réussie.
Voilà, pour le tour de la question, Jean-Marie Verdet. Maintenant, vous êtes ici pour nous parler du climat, des possibilités d'avenir pour préserver ce climat. Et ça va être le sujet de cette biotope.
Oui, le climat.
Ça, c'est après nous, l'agriculture biologique, à un moment donné, on s'y intéresse forcément.
Eh bien, ce qu'il y a, c'est que quand on est agriculteur, ce qui est pas mal, c'est qu'on est directement concerné. On est directement impacté par le climat.
On le subit.
On peut dire qu'on est un peu comme les gérants de stations de ski moyenne montagne. Hein. Ça, le climat, on est obligé de se dire il y a quelque chose qui change. Quoi. Exemple flagrant, quand je me suis installé les années 90, premier conseil qu'on me disait, si tu as des labours d'hiver à faire, fais-les avant Noël. Parce qu'après Noël, généralement, le sol est tellement gelé qu'on ne peut plus planter une charrue. Bon, voilà.
Aujourd'hui, il faut les faire avant février.
Aujourd'hui, plus jamais. Plus jamais le sol est gelé et plus jamais on est gêné pour labourer. Alors, je ne dis pas qu'il faut continuer à labourer, ça, c'est un autre débat.
Ah oui, mais... oui, c'est vrai, tiens, c'est vrai.
C'est un autre débat. Mais plus jamais, c'est quasiment plus jamais que le gel empêche de labourer. C'est devenu quelque chose d'hyper rare. Donc, ça, c'est. Voilà. On peut se dire aussi qu'en tant que Diwa, pour trouver les bons créneaux pour aller faire du ski, ça devient de plus en plus difficile. Hein, Valdrome. Ok, c'est bien, ce sont sympas les pistes à Valdrome, mais pour les avoir enneigées, ça commence à être chaud, quoi. Chaud, c'est le cas de le dire.
Donc il y a une vraie évolution, on va dire, depuis les années 90, là, flagrante de modifications climatiques.
Alors ça, c'est l'expérience locale, on va dire. Hein. D'un point de vue, on regarde autour de soi et puis on se dit, oui, ça change. Mais est-ce que globalement, au niveau planète, on pourrait dire la même chose ? Il y a pas mal de scientifiques ou pas mal de lobbies qui tentent à dire que le climat c'est passager. Moi, ce que je cite souvent, dans un système un peu équilibré qui pourrait être considéré comme la planète, on pourrait prendre un autre système équilibré qui serait un verre d'eau. Si vous avez un glaçon dedans, si vous laissez le verre d'eau dans le frigo, le glaçon ne fond pas. Si vous sortez le verre d'eau du frigo et que vous le mettez au chaud, là le glaçon se met à fondre. Actuellement, je pense que personne ne nie que l'ensemble des glaces du globe diminuent, le volume total des glaces du globe diminue. Je ne vois pas comment on peut nier que le système global Terre se réchauffe.
Alors certains disent d'ailleurs que c'est cyclique, hein, ça ouais. S'est déjà fait.
Que c'est cyclique, oui, peut-être que c'est cyclique. Et puis surtout, certains disent que oui, peut-être que le climat change. D'abord, le réchauffement, ce n'est pas sûr. Et puis en plus, l'homme, si ça se trouve, il n'y est pour rien. C'est...
Voilà, bon. Ça s'est déjà fait.
Voilà. Par rapport à la glace, ce que je trouve intéressant d'avoir en tête, c'est que dans un verre d'eau, tant qu'il y a du glaçon, même si on laisse le verre d'eau dans une ambiance qui est chaude, le verre d'eau ne se réchauffe pas. On a d'abord la glace qui fond, et après seulement, quand il n'y a plus de glace, l'eau se réchauffe. Actuellement, si on prend la planète comme le verre d'eau, on est encore avec présence de glace sur la planète, donc on est encore au stade où le glaçon fond.
Donc l'eau reste fraîche d'ailleurs même.
Voilà, grâce à cela. La planète reste relativement fraîche grâce au fait que la fonte des glaces absorbe une bonne partie de la chaleur pour fondre. Quand il n'y aura plus de glace à fondre, aïe 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 quoi. Là on se dit le pastis va chauffer vite quoi.
Vous faites partie de ce nombre incalculable de gens qui disent il faut faire quelque chose, le climat c'est... Il faut y aller quoi. Alors, que...
alors Bon, on peut contester le fait que ce soit l'activité humaine qui soit uniquement responsable du réchauffement climatique. Peut-être. Moi, je pense qu'il y a quand même des paramètres qui sont importants à considérer. C'est que depuis qu'on s'intéresse à la composition de l'atmosphère, on avait toujours constaté que c'était quelque chose de relativement stable. Ça fait partie des paramètres stables. De même que la température du corps humain, c'est quelque chose de stable.
Toujours 37.
36,8.
36,8. Bon.
Donc c'est quelque chose de stable. Et puis il s'avère que depuis les années 60, toutes les mesures qu'on fait, ben, il y en a de plus en plus. Donc il y a de plus en plus de CO2. Et ça, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup parce que dans un système stable comme la planète, on a la chance d'avoir énormément de facteurs qui permettent de maintenir cet équilibre.
Donc de stocker le CO2, puisque là, c'est de cela dont on parle.
Ben, si il y a quelqu'un qui se met à produire plus de CO2, en face, on a quelqu'un qui va se mettre à en consommer plus. Hein, en l'occurrence, l'homme actuellement, il a besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner, donc il produit beaucoup de CO2. Mais en face, on a le règne végétal dont le rôle, c'est de capter le CO2 pour fabriquer du bois, pour relarguer l'oxygène. Donc ce qui est vraiment interpellant, c'est que le fait que ces systèmes qui devraient normalement s'équilibrer ne s'équilibrent plus. Parce qu'actuellement, si le CO2 augmente, c'est un, soit qu'on en produit trop, soit qu'il n'y a plus assez de végétal pour compenser la production.
Et en plus, je crois que c'est les deux, non ?
Il y a des chances que ça soit les deux, ouais. Parce qu'on n'en a jamais produit autant que ce qu'on produit en ce moment. On n'a jamais autant fait de combustion, hein, combustion au sens large. Combustion, on brûle du bois, c'est de la combustion. Mais quand on respire, quand on est beaucoup d'humains à respirer, c'est aussi de la combustion. Quand on a besoin d'un moteur, c'est de la combustion. Donc on se rend compte que presque toutes les activités humaines dépendent de la combustion. Donc en face, on a juste le végétal pour compenser ça. Et le végétal, il fait ce qu'il peut.
Mais on le coupe.
Mais actuellement, on a l'impression qu'il n'y arrive plus. Normalement, le CO2, quand il augmente dans l'atmosphère, il devrait se comporter presque comme un engrais, comme un stimulant. On devrait avoir un développement exubérant de la végétation qui super, plus de CO2 pour elle, c'est une nourriture. Donc plus de nourriture facile, banco, allez, on grandit, on va à fond. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Parce que, ben, pourquoi ? Peut-être qu'il n'y a plus assez de surface végétalisée. Hein, soit le végétal n'a plus assez de surface pour pouvoir se développer. Là où il y a encore du végétal, ben, ce n'était pas le végétal qui était le plus capable de fixer le CO2. On remplace des forêts primaires par une forêt d'huile de palme. Ben, ce n'est pas le même captage de CO2. Et puis après, il y a peut-être un bon capteur de CO2, c'est tout ce qui est végétal dans les océans. Et ça, il devrait...
Donc les algues. Hein.
Tous les algues, le phytoplancton, ce qu'on appelle le phytoplancton. Et ben, je ne sais pas si scientifiquement c'est reconnu, mais moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui limite ça. Il y a quelque chose qui fait que le phytoplancton n'arrive pas à absorber le carbone. Peut-être que la pollution y est pour quelque chose. Peut-être qu'on a fini par répandre un petit film d'huile à la surface des océans qui limite les échanges gazeux entre l'atmosphère et l'eau et que le phytoplancton n'arrive pas à capter tout ce qu'il devrait capter. Je ne sais pas. Ça, c'est intuitif. Je suis agriculteur. Hein. C'est mon côté intuitif. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des scientifiques qui vous répondent à ça, quoi.
Alors là, on est en plein dans les rencontres écologie au quotidien, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se fait comme ça cette série d'entretiens. Vous y participez ?
Alors j'y ai participé en tant que, on va dire, résonance locale. Je participe pas en tant qu'organisateur parce qu'on peut pas tout faire.
Mmh. Mais résonance locale, vous étiez invité à.
J'étais invité à participer à une table ronde sur l'humus et le climat en tant que résonance locale.
Alors qu'est-ce que vous y avez dit ?
J'ai dit que j'étais hyper content de voir que des scientifiques, que l'INRA commence maintenant à s'intéresser à un sujet tel que l'humus du sol. Parce que ça fait plus de 10 ans, même presque 20 ans, nous, que localement, on se dit, ben voilà, quand on ramène du compost dans le sol, le compost, ça contient encore beaucoup de carbone. Et quand on met du compost dans le sol, à la fois on stocke du carbone dans le sol, on fait du bien à son sol, mais on fait aussi du bien à l'atmosphère.
Donc là, on va parler de tous ces déchets agricoles de type donc les pailles, hein, vous les avez cités au début, mais on peut en imaginer plein d'autres, les coupes de bois, comment on appelle ça, les bois qu'on va pas déchiqueter mais qui resteraient là dans un coin. Et puis, qu'est-ce qu'on enterrerait d'autre ? Qu'est-ce que vous auriez à stocker les agriculteurs en priorité ?
Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'on va pas enterrer. On va pas enterrer
non,
ça.
On dépose.
Comment dire ? Je m'oppose aux techniques d'enfouissement du carbone pour rien. Le carbone, le cycle du carbone, c'est aussi un cycle de la vie. Donc c'est vrai qu'on en sort des mines avec le pétrole, avec le charbon, on l'a sorti de terre des grandes quantités de carbone, donc on serait tenté de renfouir ce carbone dans les mines, re-remplir les mines avec du blé, du sucre, enfin je sais pas quoi, des produits très riches en carbone. on travaille pas pour ça, c'est pas la vie ça, c'est remplir le blé, il a autre vocation que de servir de stock de carbone dans une mine, enfin je sais pas, mais ça me paraît fou.
Le blé est un bon fixateur de carbone ?
C'est quasiment que du carbone. Donc c'est pour ça que je dis on pourrait stocker du sucre, mais le sucre il fond dans l'eau, donc il ne faudrait pas le mettre dans une mine humide. Le blé pareil, il va finir par germer si on le met. Bon, je rigole là, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se disent bah voilà, on va stocker des produits riches en carbone dans le sous-sol pour solutionner notre problème. Non, on a mieux à faire que ça.
Et donc on travaille sur l'humus.
J'ai cité tout à l'heure tout ce qui était combustion. La combustion, c'est une façon de récupérer tout de suite, rapidement, toute l'énergie qui a été stockée dans des produits lignes, des produits carbonés, dans le bois, dans le charbon. On brûle, on récupère tout de suite toute l'énergie qui était stockée et on relâche le gaz carbonique. Ça, c'est la façon la plus fréquente,
classique
de dire on valorise un déchet en récupérant toute l'énergie que contient ce déchet. Et puis tant pis, le CO2, c'est le déchet ultime, quoi. On laisse le végétal, le
soin. Celui-là, on ne sait pas, quoi.
Celui-là, ouais. On ne sait pas. De toute façon, on ne le voit pas. De toute façon, il part dans l'atmosphère. Et puis, il y aura bien suffisamment d'arbres pour pouvoir le récupérer et puis le remettre sous forme de bois. Donc ça, c'est une voie classique de valorisation des déchets. L'autre voie, qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus délicate, beaucoup plus gestion moyen terme, même voire long terme, c'est ce qu'on appelle l'humification. C'est le travail de ces déchets pour les mettre dans des conditions où ils vont être colonisés par des micro-organismes, par de la vie, pour être petit à petit dégradés en quelque chose qui va être utile pour le sol, qui va être fertilisant. Enfin, moi, je pense qu'il faudrait pouvoir utiliser le maximum de déchets organiques vers une voie d'humification et non pas vers une voie de combustion.
Mais j'ai une question là. Le carbone, donc, si j'ai bien compris, donc, il est stocké par exemple dans le blé, dans le sucre. Nous, on en mange. On en extrait l'énergie qui a été fixée par le carbone. Et ce carbone, on en fait quoi ?
Alors, nous, on en extrait de l'énergie par de la combustion. Ce qui se passe au niveau de nos muscles, nos cellules, c'est une combustion.
Ah,
c'est,
oui.
C'est une combustion des sucres sous l'effet des enzymes du vivant. Avec utilisation d'oxygène, donc on consomme les sucres qu'on a absorbés ou qui ont été transformés à partir de ce qu'on absorbe, avec de l'oxygène et on relâche du gaz carbonique.
C'est un fléau ce gaz carbonique en fait, de toute façon pas le stocker, tout le monde le rejette en fait.
Mais si, on a tout le règne végétal, on a la luxuriance du règne végétal.
Il n'y a
que le règne végétal, et bien il faut lui rendre cet honneur.
Mais alors tous ces micro-organismes qui vont venir dans le processus d'humification du sol vont aussi
respirer,
extraire l'essence même du truc pour finalement laisser le carbone. Donc quand est-ce qu'on le stocke ? L'idée ce serait quoi ? De faire repousser des espaces verts sur des zones qui...
Plus il y a de végétal, plus il y aura de capacité à fixer le carbone, le CO2. Un arbre, on a plusieurs façons de le regarder. On peut lui remercier de fixer le CO2, mais on peut aussi le voir comme quelque chose qu'on va pouvoir exploiter. Ça peut être comme quelque chose qui gêne. Ça me gêne dans mes pratiques agricoles, ça me gêne pour travailler le champ, ça me gêne pour pouvoir produire autre chose. Quand les Allemands se sont mis à se dire ben, on ne veut plus faire d'énergie nucléaire, on va faire tourner avec de l'énergie renouvelable, ben, ils ont trouvé intelligent de faire des centrales qui marchent à l'huile de palme. C'est une renouvelable.
Intelligent.
Sauf que pour faire pousser l'huile de palme, il faut enlever de la forêt primaire.
Et qu'une forêt en Indonésie principalement.
Voilà, qu'une forêt primaire. Eh ben, elle a plus de capacité de stocker le CO2 qu'une forêt d'huile de palme.
Et par ailleurs, brûler de l'huile de palme fait du CO2.
Hein, eh bien voilà. Eh ben, oui, on finit par la combustion puisqu'on le brûle.
Donc, alors ma question, qui est celle d'avant, est-ce qu'il faut donc que chaque agriculteur ou chaque ville, chaque zone humainement habitée et humainement gérée possède aussi sa petite forêt à côté ?
C'est pas sa petite forêt.
Grosse forêt. Alors.
Non, mais il faut avoir une vision globale de la planète. On ne peut plus s'intéresser à son petit coin, sa commune, sa région. C'est une vision d'ensemble. Qu'est-ce qu'on fait pour laisser le végétal se développer au niveau planétaire ? Qu'est-ce qu'on fait qui entrave ce développement ? Quelles sont les pratiques qui sont utiles au règne végétal ? Quelles sont les pratiques qui lui sont nuisibles, néfastes ? Donc c'est vraiment une gestion d'ensemble. Quand on a dans son jardin un petit tas de déchets qui nous gênent, un petit tas de broussailles, qu'est-ce qu'on en fait ? La façon la plus simple, la plus facile, qui était la plus répandue, on met une allumette et puis on le détruit.
Qu'on appelait l'écobuage.
Ou même,
c'est tellement beau comme mot.
Voilà, et puis le petit feu dans son jardin, où on coupe du bois, on veut récupérer les bûches, puis on a toutes les branches. Mince, qu'est-ce qu'on en fait de ces branches ? C'est du bazar, ça finit par faire un gros tas. Ben, hop, une allumette et puis c'est terminé. Plus de problème. Il n'y a plus que les cendres. On a l'impression qu'il n'y a plus que les cendres. Mais on a oublié qu'il y a beaucoup plus de CO2. on a relâché beaucoup de CO2. Donc c'est déjà dans la gestion de tous ces déchets. Un déchet ne devrait être brûlé que pour permettre une récupération d'énergie. Brûler un déchet organique, brûler du bois, sans récupérer l'énergie qui a été libérée par la combustion, c'est criminel. Parce qu'on a fait, on a fabriqué du CO2 pour rien.
Donc si on a bien compris, on ne brûle plus dehors, on brûle dans son poêle au minimum, quoi.
On brûle dans son poêle que ce qu'on a besoin. Et puis si on n'en a pas besoin, eh ben, on laisse se décomposer. On laisse les micro-organismes faire, on laisse les micro-organismes coloniser ce bois qui vit. Ça prend du temps, ça prend de la place, plus ou moins, suivant comment c'est géré. On peut permettre d'activer les choses par des techniques, on connaît maintenant les techniques du compostage un peu plus rapides.
On broie d'abord.
Alors il faut d'abord broyer finement, il faut que ça soit humide, il ne faut pas de résidus qui embêtent les micro-organismes. C'est sûr que si on a balancé, si on essaye de composter des sarments de vigne qui ont été pleins de bouillie bordelaise, on va avoir du mal. Parce que le cuivre est un antagonisme des champignons, et les champignons sont les premiers organismes qui vont coloniser cette matière organique pour l'aider à se décomposer. Voilà, mettre les déchets dans des conditions favorables pour qu'ils puissent se décomposer le plus vite possible et aboutir à cette forme d'humus qui est une forme tellement noble de matière organique qui, mélangée à l'argile, va permettre au sol de retrouver une fertilité naturelle.
Et concrètement, chez vous, Jean-Marie Verdet, c'est quoi ? C'est quelques champs qui sont prêts à recevoir, par exemple, toute la paille, techniquement, par exemple ?
Alors, techniquement, c'est d'abord remettre de la vie au sol. Donc, comme je disais au début de l'émission, c'est plus de cides. Hein, si on veut redonner de la vie au sol, il faut arrêter tous les cides. D'abord, ça ne sert à rien d'essayer de stimuler la vie du sol par tous les moyens si on continue à balancer des produits qui la tuent. Après, quand on a un sol qui a du mal à retrouver de la vie, le mieux, c'est de faire un compostage en tas. Parce que quand on fait un compostage en tas, on obtient un produit qui est très riche en micro-organismes qui vont être du coup après utiles dans le sol. Ça permet, comme si c'était un ferment pour que le sol retrouve une certaine forme de vie. Quand on épand un compost bien mûr et bien fait, on réensemence son sol de tous les produits vivants qu'il aura besoin pour digérer lui-même, être capable de digérer lui-même la matière organique qu'il contient. Donc une fois qu'on a fait ça comme ça pendant un certain nombre d'années, arrêter tous les cides, remettre du compost mûr pour restimuler la vie de son sol, après on se trouve avec un sol vivant qui est capable par lui-même de digérer la matière organique qu'il reçoit. Et du coup, on peut se permettre de faire après ce qu'on appelle un compostage de surface ou laisser la paille telle quelle. Ouais. Et du coup, il y a suffisamment de ce qu'il faut dans le sol pour être digéré.
En plus, on fait des économies de matériel et de temps. Hein.
Et ben voilà, on
fait plus de bottes, terminé.
On finit par faire pas mal d'économies. Alors c'est vrai que bon, faut pas faire de bêtises non plus. Un sol, quand on ramasse pas la paille derrière un blé, la paille pour se décomposer, les micro-organismes pour décomposer la paille, ils ont besoin d'azote. Si on enfouit la paille dans le sol, eh ben, les micro-organismes ils cherchent l'azote là où elle est, donc ils vont prendre l'azote du sol, et le blé qui arrive derrière, il n'a plus assez d'azote, il n'arrive plus à pousser. Donc il y a des choses, il faut réfléchir un peu, il y a des choses intelligentes à faire, il y a des bêtises qu'il faut éviter. Donc quand on laisse beaucoup de végétaux, de débris végétaux dans un sol, ils vont mieux revenir derrière qu'une luzerne, par exemple. La luzerne, elle fixe l'azote de l'air. Elle n'a pas besoin de l'azote du sol pour pousser. Bon, ben voilà. Moi, je cite des fois l'exemple d'une luzerne jeune. Une luzerne jeune, on peut lui apporter de la sure dessus. La sure, c'est dur à décomposer. La sure, il faut beaucoup d'azote pour la décomposer. Mais la luzerne, elle n'a pas besoin qu'on lui apporte de l'azote. Et puis, si on laisse la sure en surface, c'est l'azote de l'air que les micro-organismes utilisent. La luzerne, elle reste en place 5 ans. En 5 ans, la sure, elle a le temps de se décomposer. Et au bout du compte, on aurait eu un humus fait avec presque rien.
Ça me rappelle des cours très lointains, peut-être même de primaire, où on parlait de la triangulation des cultures, faire tourner comme ça. J'ai l'impression que ça s'est complètement arrêté. Il n'y a plus d'éducation de l'agriculteur, si on peut employer ce terme.
Non, c'est pas qu'il n'y a pas d'éducation, c'est qu'il y a le côté profit qui a pris le dessus. Je me dis qu'en fait, il y a deux systèmes. Il y a deux systèmes d'humanité. Il y a un système, qui serait le système majoritaire actuel, qui est un système de spirale descendante. C'est le profit qui prime sur la vie. Et ça, c'est vraiment le système actuel, le système économique qui fonctionne actuellement. Et c'est un système vraiment descendant, parce que la vie, c'est nous. Donc, si on ne respecte pas les lois de la vie, on ne se respecte pas. Et du coup, on se rend compte qu'on vit dans un milieu de plus en plus hostile. Compétition, compétitivité, trucs comme ça, le bonheur de vivre, on ne sait plus où il est parce qu'il faut produire, enfin voilà quoi, ce genre de choses. Et à côté de ça, ben, moi, j'ai l'impression que ça ne sert à rien de lutter contre, d'essayer de lutter, de freiner un système comme ça, parce que de toute façon, il descend.
Il va tomber tout seul.
Il va tomber tout seul. Si on essaye de lui faire du bien, tout ce qu'on fait, c'est ralentir la descente, on prolonge l'agonie.
Oui, mais s'il met trop longtemps à tomber, on peut tomber avec. Non,
ce que j'essaye de promouvoir plutôt, c'est de la participer à un autre système qui serait un système ascendant, dans lequel c'est les lois de la vie qui priment. Et qu'on s'efforce de faire un peu de profit, mais en respectant toutes les lois de la vie qui nous imposent un fonctionnement. Donc on ne peut pas nier le profit, parce qu'on a besoin de vivre, on a besoin d'avoir une activité rentable, on a besoin de la rentabilité quand même, c'est obligatoire ça. Mais la recherche de la rentabilité ne doit pas nous amener à renoncer au respect des lois de la vie. Et du coup, c'est un système qui est plutôt générateur de bien-être, de bonheur, c'est des grands mots tout ça. Mais moi, mon rêve, ce serait de donner envie à plus en plus de gens de rejoindre un système ascendant et de quitter le système descendant.
Et on peut dire que, en tout cas, ça n'a jamais été suffisamment fait pour qu'on puisse au moins savoir qu'est-ce qu'on risque. Hein, donc on pourrait y aller tous ensemble, ça serait pas mal.
Ouais, en tout cas, on voit ce qu'on risque avec le changement climatique.
Ça, c'est vrai.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
En compagnie de Jean-Marie Verdet, nous allons parler de la gestion des déchets verts par la communauté de communes.
Actuellement, ce qui se passe, la communauté de communes collecte les déchets verts, elle les broie, et puis elle les met en tas. Et puis elle espère qu'il y aura suffisamment d'agriculteurs qui viendront les chercher pour s'en débarrasser.
Donc elle fait ce qu'on appelle le compost en tas là.
C'est pas un compost, c'est un gros tas de déchets verts broyés. C'est déjà pas mal, si on brûle plus c'est déjà bien. Mais il semblerait que cette gestion soit pas optimum, parce que ces déchets se retrouvent très souvent pollués. Ils sont collectés dans des mêmes zones que les ordures classiques. En tant qu'agriculteur, quand on utilise ces déchets, on se retrouve très souvent avec des pollutions style plastique, bouteilles.
C'est-à-dire que les gens qui auraient déposé leurs déchets verts avant ont mal fait le tri, quoi.
Soit mal fait le tri, soit c'est le vent qui a pris des déchets de la benne d'à côté qui est venu polluer le tag d'organique qui était là. J'accuse pas, je veux pas condamner, plus on est à travailler de façon positive, mieux c'est.
Et qui l'a lancé alors ça ? C'est des agriculteurs qui avaient fait cette demande au départ, ou c'est vraiment un projet de la communauté de communes ?
Alors la communauté de communes, elle, il fallait qu'elle traite ses déchets, donc elle achetait un broyeur. Donc c'est déjà bien, elle a acheté un broyeur, elle a embauché quelqu'un qui vient le faire, donc qui broie. C'est bien parce que du coup, nous, on peut récupérer des végétaux broyés. L'alternative, ce serait que tous les agriculteurs aient un broyeur chez eux pour broyer des végétaux communaux. C'est pas forcément très intelligent. Donc déjà, ce que fait la communauté de communes, c'est bien. Ça pourrait être mieux, on pourrait avoir un produit qui soit mieux travaillé, qui soit plus élaboré, qui soit criblé de façon à ce qu'il soit plus rapidement utilisable. Peut-être 5 coups. Mais globalement, si on a plus d'agriculteurs qui sont motivés pour l'utiliser, si on arrive à répartir cette richesse qu'est l'humus sur une plus grande surface, eh ben je pense que c'est gagnant pour tout le monde. Mais il faut une volonté, pour ça. Peut-être qu'il faut arrêter de prendre les déchets gratuitement. Peut-être que tous les paysagistes qui génèrent pas mal de déchets organiques, il faudrait qu'ils participent au devenir. Enfin voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là sur le devenir des déchets organiques dans le Diois. Quand j'ai vu BioValley, je dis waouh, ouais, super, ça, ce serait un super projet pour un projet collectif, un projet global de toute une vallée qui s'intéresse à l'ensemble de ces déchets organiques. Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les valorise pour que ça soit le plus profitable au sol?
Alors, on a répondu à presque toutes les questions en même temps. Hein. Décrire l'action, c'était donc de récupérer ces déchets et de les regérer. Les difficultés, c'est que c'est pas assez bien fait, qu'il n'y a pas assez de monde motivé pour le faire, qu'il y a très peu de moyens humains placés par la communauté de communes, en tout cas dessus. Au niveau investissement, ce n'est qu'un broyeur. On pourrait imaginer qu'il manque peut-être de surface pour retourner ce compost, pour le travailler.
Moi, je rêve d'une aire de compostage à l'échelle communauté de communes qui collecterait tous les déchets verts. Il y a quelqu'un de compétent, de motivé, qui dit « bah ça, c'est plutôt du grosse section de bois, ça s'appelle les bois de chauffage. Donc on va le garder pour ceux qui ont besoin vraiment de se chauffer. Ça, c'est du petit bois. On peut peut-être en faire des plaquettes pour le chauffage, pour ceux qui ont des
du granulé.
Ou du granulé, ça. Voilà. Ouais. C'est encore des sections intéressantes pour quand on a, parce qu'on a besoin. On a besoin de récupérer l'énergie aussi quand même. Hein. Si on veut plus...
Oui, on ne va pas arrêter la combustion pour autant.
Exactement. Mais par contre, il y a toute une fraction. Bah, c'est des trop petites sections pour que ça soit intéressant de récupérer l'énergie. Et bah, il faut les composter, celles-là. Et puis les composter, quel mélange on fait, comment on fait. Mais pour ça, il faut quelqu'un de compétent, il faut de la surface, il faut des moyens, il faut avoir réfléchi au problème, il faut avoir envie de s'en occuper. Ces déchets verts, ils sont souvent, il faut les retravailler derrière. Soit on les épand en surface pour faire un compostage de surface, pour laisser les micro-organismes finir le travail, soit il faut les retravailler en tas pour que ça soit un humus vraiment utile au sol. Donc on utilise un service, mais avec un produit qui n'est pas fini. Voilà. Donc c'est en libre service actuellement, c'est bien, c'est déjà bien.
À la déchetterie de Die.
À la déchetterie de Die, à la déchetterie de Minglon, à la déchetterie de Luc, à l'ensemble des déchetteries. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que ce broyat se retrouve poussé dans un talus et que du coup, ça fasse du carbone qui ne sert à rien et qui va finir en CO2 sans avoir rendu aucun service.
Capsule. Jean-Marie Verdet, merci pour cette présentation, cette sensibilisation à l'humification des sols. Je trouve que c'est un très beau mot. À bientôt sur notre antenne, car je crois que ce n'est pas fini.
On en reparlera. Allez, au revoir.
Au revoir.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.